Bonjour à tout le monde. Je suis heureux de me retrouver, comme presque tous les ans, parmi vous. Sauf que cette année, je suis de l'autre côté de la barrière. Oui, alors, au-delà des problèmes d'handicap physique auxquels sont confrontés les LIS, ils ont à relever un défi qui n'est pas le moindre, qui est de se construire une nouvelle vie après cet accident qu'ils ont connu. Si des progrès importants ont été réalisés pour les aider à s'affranchir physiquement des contraintes dues à leur handicap physique, ils demeurent très seuls et très désarmés face au second défi. C'est ce qui a amené Alice à constituer un groupe de réflexion sur ce second point. Il ne s'agit pas seulement d'aider les LIS à faire face à leur nouvelle situation, mais également ceux qui les entourent, leurs proches, ainsi que les professionnels de santé, à prendre en compte cette dimension très particulière. Alors, quelle a été notre démarche ? Alors, un groupe donc, de travail, comme je le disais, a été constitué, et tout particulièrement avec Christian et moi. Et on s'est préoccupé, en quelque sorte, on a regroupé également d'autres LIS, de manière à ce qu'ils contribuent à notre réflexion. Il ne s'agit pas pour eux d'être des patients, mais d'être des participants, et en organisant un partage d'expériences entre eux. Alors si les problèmes d'handicap physique, les solutions aux problèmes d'handicap physique sont relativement, toute proportion gardée, faciles à concevoir et à imaginer, ce n'est pas le cas lorsqu'il s'agit de se construire un nouveau chemin pour se créer un nouvel avenir et s'intégrer dans la société. Au fond, il m'arrive souvent de faire un petit peu ce parallèle, alors que se mettent en place des plans inclinés pour aider les personnes en fauteuil à accéder dans des endroits dans lesquels ils ne pouvaient pas accéder, eh bien nous, ce qui nous concerne, il s'agit d'imaginer des sortes de passerelles qui permettent précisément aux LIS de se réintégrer dans la société et de se projeter dans un avenir qu'ils ont à créer. Il ne s'agit bien sûr pas de leur proposer d'avoir la prétention d'aboutir à des solutions toutes faites, mais précisément d'amener chacun à trouver son propre chemin de reconstruction et de l'accompagner dans cette démarche difficile, en le faisant profiter des expériences d'autres qui, à leur manière, ont parcouru ou parcourent ou s'efforcent de parcourir un chemin semblable. Sachant bien entendu que chaque chemin est différent parce que ça prend en compte ces dimensions humaines, l'histoire qu'ils ont connue auparavant, leur tempérament, leur goût, leur environnement, enfin, toutes choses qui naturellement sont très particulières et qu'il faut prendre en compte. Et c'est à partir de là qu'il faut essayer de se construire cet avenir. C'est donc à des échanges approfondis que nous nous livrons avec les uns, avec les autres, même s'il n'est pas facile de les réunir. Mais nous servons aussi d'interprètes, d'intermédiaires pour transmettre les expériences, les réflexions de chacun. Nous nous voyons concrètement, nous nous voyons avec une fréquence de l'ordre d'un mois. Nous avons des conversations extrêmement libres, de manière à ce que l'ISS puisse vraiment réfléchir. Nous-mêmes lui relançons la balle et lui transmettons d'autres expériences. Et puis nous établissons un compte-rendu à chaque fois dans lequel nous mettons concrètement en majuscule les propos tenus par le LIS pour bien les distinguer de ceux que nous tenons. Nous ne nous fixons aucune contrainte. Nos entretiens sont très ouverts. Ils peuvent aborder n'importe quel sujet, précisément au gré aussi des aspirations, des préoccupations du moment de chacun. Voilà très brièvement présenté un petit peu l'origine de notre démarche et comment elle se pratique. Alors maintenant, quels sont les premiers enseignements qui s'en dégagent? Eh bien, on va vous les projeter. On a dégagé, on pourra en dégager d'autres, mais 9 points principaux dans lesquels on s'appuiera d'ailleurs sur des réflexions de l'IS, dont nous sommes sûrs que nous garderons anonymes, et que vous signalera, que vous donnera Christian. Alors, le premier, je dirais aussi provoquant que cela puisse paraître, le LIS peut, comme toute épreuve, être positivé. Alors, j'espère que je ne vous choque pas, mais je dois dire qu'avec les LIS avec lesquels nous échangeons, eh bien, ils ont ressenti effectivement tout à fait ce sentiment et ce désir, et ça ne les a pas choqués. Je laisse.
Alors, j'appellerai ça volontiers parole de LIS. Nous ne déformons absolument rien. Chaque fois que je prendrai la parole, ce sont des citations de ce que nous ont dit les LIS que nous avons rencontrés. Donc, je cite. Il y a un certain nombre de personnes que je côtoie grâce au handicap et que je ne connaîtrais pas sans cela, car mon handicap, s'il me ferme des portes, il m'en ouvre également d'autres. D'ailleurs, j'ai mis des années pour comprendre que certaines portes étaient fermées. Au cours de mon parcours LIS, il y a toute une période où je ne voyais que les portes qui se sont fermées, puis une autre période où j'ai découvert de nouvelles portes qui s'ouvraient. Autre citation, au début, on ne voit que cela, les portes qui se sont fermées. Petit à petit, on en voit qui s'ouvrent et celles qu'il suffit de pousser pour les ouvrir. On les voit fermées et on veut les enfoncer. Puis avec le temps, on s'aperçoit qu'il suffit de tourner la poignée. Et une phrase que j'aime beaucoup, qui est superbe, j'ai enlevé les deux F du verbe souffrir et maintenant je vais bien. Vous retirez les deux F, vous avez vu que c'est le sourire. Cette épreuve peut être une opportunité et permettre d'accéder à des joies profondes. Autre citation. Il y a des raisons de positiver, surtout du fait qu'on rencontre des gens qu'on ne connaîtrait pas sans cela. Mais il faut d'abord accepter sa situation et en conséquence voir les choses par rapport non à ce qu'on était avant, mais à ce qu'on est à présent. Autre citation. Il y a des moments où on peut oublier son handicap tellement on se sent bien. Pourtant, cela passerait inaperçu si on était valide.
Alors, bien sûr. Juste préciser par rapport au timing, qu'on a 2-3 questions, si on veut, 2-3 minutes, si on veut laisser 5 minutes à l'auditoire de discuter avec tout le monde après.
Très bien. Alors, le point 2, c'est la nécessité d'avoir toujours des projets. Et c'est là que les personnes qui accompagnent ont un rôle déterminant. Souvent, il m'arrive de dire à mon fils, je suis un petit peu une prothèse de liberté. Et des projets, mais pas seulement des projets, également de veiller à toujours rester intégré, même à développer des relations. On sait bien que même quand on n'est pas dans un fauteuil, on n'existe jamais seul, on existe au travers du réseau qui est dont on fait partie. Toujours avoir des processus, je dirais, d'apprentissage. À tout âge, et je suis bien placé pour le savoir parce que je dois être peut-être le doyen de cette assemblée, eh bien, on est obligé d'apprendre. Et même quand on est dans un fauteuil, je crois qu'il faut toujours entretenir ce goût de l'apprentissage pour essayer toujours de faire mieux certaines choses. Et puis, je veux citer un petit peu ces points-là à mon fils pour ne pas le nommer. Et quelque temps après, je lui ai demandé, mais est-ce que je n'ai rien oublié ? Oui, il m'a dit si. Il m'a dit, il faut avoir une fonction. Une fonction, c'est-à-dire jouer, continuer à jouer un rôle, à apporter quelque chose à la société. Puis, quelques années après, reprenant cet échange, je lui ai dit, est-ce qu'on n'a rien oublié ? Il m'a dit si. Il m'a dit, il faut avoir aussi des rêves. Et des rêves, ça vous projette dans l'avenir. Je rends la parole à Christian.
Oui, toutes les paroles de Lys que je cite, je crois que la plupart de vous peuvent les faire siennes. Au début, on est convaincu d'être fini, que ce n'est plus possible, et à force, on s'aperçoit que la vie continue. Alors, parmi les projets, Robert... Vous pouvez citer des projets, effectivement, se projeter dans l'avenir alors qu'on est immobile, c'est quand même une force extraordinaire qu'on acquiert. Je pense que si on vous donnait la parole tout de suite, vous abonderiez.
Oui, parmi les projets qu'on nous a signalés, c'était par exemple de faire un pèlerinage, de voyager, de revenir.
C'est la coupure.
Je vous prie de m'excuser, je croyais qu'il était fermé. Oui, c'était le cas de faire un pèlerinage en Pologne, d'aller à Rome, d'aller en Terre Sainte. Parce que avoir des projets, ça vous occupe beaucoup avant pour les préparer et ensuite pour en tirer tout le profit que ça vous apporte. Ça peut être d'écrire un livre pour un autre. Ça peut être de préparer un voyage au Portugal pour revoir le pays dans lequel on a vécu pendant son enfance et que, bien sûr, qu'on va retrouver tout à fait transformé. Voilà. Point 3. Certaines rencontres sont déterminantes pour permettre à Lys de se reconstruire.
Toujours cité, j'ai toujours rencontré les bonnes personnes au bon moment. Tout ça, c'est extrêmement positif. On ne peut pas se rendre compte quand on n'est pas confronté à ce que vous avez et quand on n'est pas confronté à nos échanges avec vous. D'entendre des phrases comme ça, j'ai toujours rencontré les bonnes personnes au bon moment. C'est extrêmement positif. Ce fut le cas de mon ergothérapeute, et sans la faire rougir, et de Véronique.
On me signale qu'il faut accélérer, je vais me forcer de le faire. Alors, point 4. L'hélice ont un très grand besoin de continuer à se sentir utiles et reconnus, et surtout reconnus comme tels. Souvent, ils sont convaincus qu'ils sont et qu'ils peuvent être utiles, mais ils doutent qu'ils d'être considérés comme cela.
Et pas seulement qu'on le dise, mais qu'on le montre. J'ai entendu l'autre jour une phrase que j'ai trouvée magnifique, ça je cite encore, la mission des handicapés est d'aider ceux qui se croient valides. Il y a de quoi réfléchir.
Point 5. Les relations d'Élis avec les autres doivent se traduire par des échanges en profondeur et équilibrés, chacun apporté à l'autre. Cette situation d'échange équilibré est fondamentale.
Dans les autres, il y a les handicapés et les valides. Je n'attends pas la même chose des deux. Les handicapés, je suis agréablement surpris de la solidarité entre eux. Autre citation, parce qu'on n'a pas de temps à perdre en futilité, lorsqu'on dit quelque chose, on l'a déjà mûri. Et phrase terrible, les visites juste par charité, non merci. Seules m'intéressent les visites régulières permettant des échanges approfondis sur des sujets présentant un intérêt partagé.
Je rebondis, un intérêt partagé, ceci est très important. Il faut qu'à partir, à la fin d'un échange, chacun reparte en ayant l'impression de s'être enrichi. Point 6, les LIS ont un très grand besoin que leur capacité de jugement et de décision soit reconnue, qu'on leur fasse confiance et que leurs décisions soient respectées, bien qu'ils soient dépendants pour les mettre en œuvre.
Et là, malheureusement, ça m'est arrivé. Je cite, ce qui m'a fait extrêmement plaisir, c'est quand Christian, chez moi, m'a monté un meuble, chez lui bien sûr. Il m'a dit, je ne comprends pas que cela ne ferme pas, et que je lui ai dit que c'était monté à l'envers. Moi j'étais très confus bien sûr. Tu inverses les côtés, ni une ni deux, il l'a fait, il n'a pas mis ma parole en doute.
Les dernières paroles sont importantes, il m'a fait confiance. Car on remarque que beaucoup de LIS doutent qu'on leur fasse encore confiance. Point 7, il leur est insupportable d'être privés de leur capacité de construire leur vie comme ils le veulent et d'exercer leurs droits de citoyen.
Je cite à nouveau, mon frère avait été nommé comme étant mon curateur légal et géré tout à ma place, non pas qu'il le fasse mal, le problème étant qu'il ne me tenait au courant de rien, ce qui me déplaisait fortement. J'ai dû alors aviser et me résoudre à prendre un organisme de tutelle.
Les LIS sous tutelle sont censés choisir leur lieu de vie, par exemple. Mais c'est en fait théorique, dans la mesure où ils ne peuvent pas concrétiser eux-mêmes leur choix. Ils sont dépendants. Les nouvelles dispositions permettant aux juges de redonner leur droit de vote aux adultes protégés, et en particulier aux LIS, ont été un progrès considérable. Point 8, leur état entraîne chez les LIS une sensibilité accrue à tout ce qui peut avoir pour effet de mettre en doute leur capacité intellectuelle.
Ça va être bref, souvent je ressens cela.
Dernier point, fort de leur expérience, j'allais dire les LIS anciens, peuvent rendre de grands services aux autres, c'est-à-dire aux plus récents. Cela peut prendre plusieurs formes. D'abord, témoigner de leur histoire, de ce qu'ils ont vécu. Ensuite, jouer un rôle en quelque sorte de tuteur. On peut imaginer qu'un LIS qui a vécu 10 ans, en quelque sorte, qui a donc fait un parcours, bien peut aider des personnes étant plus récemment confrontées à ce problème à faire plus facilement leur propre parcours. Enfin, c'est important, au travers de ça, de pouvoir sensibiliser tout l'environnement des LIS aux véritables problèmes qu'ils ressentent, de manière vraiment à les aider à partager toutes ces expériences.
Et là, je cite aussi, « Je parle ainsi parce que j'ai un certain recul sur la situation, mais celui auquel cela vient d'arriver ne voit pas les choses de la même façon. Si on m'avait dit en sortant de réanimation qu'un jour je vivrais seul dans un appartement, ça, je ne l'aurais jamais cru. » Et en conclusion de notre intervention auprès de nos amis LIS, voilà notre conclusion. Privés de toute communication orale, nos amis LIS que nous avons rencontrés nous ont fait savoir combien ce silence leur coûtait et qu'après avoir surmonté les premiers moments de déprime, leur appétit de vivre avait repris le dessus et que celui-ci s'accompagnait du désir de communiquer leurs expériences, comment ils avaient affronté les nombreux obstacles qui s'étaient dressés devant eux et comment ils pouvaient apporter leur aide aux autres LIS. En conclusion, Nous reprenons une phrase citée plus haut que je trouve fort belle, comme j'ai dit tout à l'heure. La mission des handicapés est d'aider ceux qui se croient valides.
Juste signaler voilà, qu'il nous reste 5 minutes d'échange avec les différentes personnes qui ont parlé. Et si on les respecte, on est dans les temps, sachant que ceux qui vont parler après parleront un peu moins que ce qui est prévu.
En ce qui concerne les projets, est-ce que vous n'avez pas pensé une fois de créer une charte de l'aidant et prévoir des structures officielles et avoir la possibilité pour l'administration de s'occuper
Oui, effectivement, vous insistez sur un point auquel on réfléchit, qu'on avait un petit peu intitulé, mais on ne l'a pas encore concrétisé, un petit peu une sorte de lettre ouverte de l'IS, donnant notamment aux personnes soignantes, aux organismes qui s'occupent d'eux, un petit peu leur point de vue de l'autre côté de la barrière. Mais effectivement, on ne l'a pas encore concrétisé.
On pourrait peut-être demander à Alice de coordonner avec les sociétés, les partenaires qui emploient les auxiliaires de vie ou qui les proposent, de faire une charte des aidants. Les aidants, soit de manière générale pour quelqu'un qui a de gros handicaps, soit pour l'Alice. Pour aller dans la suite de ce que vous avez fait, Isabelle et Sol.
Moi, j'aimerais bien qu'à la suite du questionnaire d'Isabelle, quelques personnes nous confient ce que ça leur inspire.
Oui, non. Moi, certainement, ce que vous disiez, qu'il faut avoir des rêves. Oui, mais il faut se fixer des rêves réels. Sinon, on est frustré. La deuxième chose, en tant qu'ancien Nice, moi, ça fait 16 ans que je suis Nice, on ne peut aider quelqu'un que quelqu'un a accepté sa situation. Avant l'acceptation du handicap, la personne est dans un déni. Elle n'écoutera pas ce que vous pouvez lui amener.
Pour répondre à ce qu'a dit Jean.
Alors j'ai bien compris la deuxième chose, c'est qu'en fait vous disiez que les personnes, les anciens LIS, même quand ils veulent aider les nouveaux LIS, en fait il faut que le nouveau LIS accepte déjà sa situation, sinon il n'accepte pas encore d'être aidé. C'est ça. Je ne sais pas si quelqu'un veut. Oui, c'est voilà. Par contre la première chose, j'ai pas bien compris, je suis désolée. C'est par rapport au rêve, la première chose. Des rêves réalisables, oui, bien sûr. Voilà. Voilà. Merci, monsieur. Merci. Isabelle voulait dire quelque chose.
Non, je pense que nous allons arriver avec notre immobilité à faire bouger les choses, que les formations sont essentielles, mais que comme à chaque fois, il va y avoir un manque de financement et que voilà, que je pense dans le futur, il va falloir faire évoluer la cause des soucis et surtout que la personne handicapée jeune soit reconnue. Parce que le problème, c'est que souvent, les sociétés sont associées aux personnes âgées. Je pense que le problème du savoir-être se situe là. Parce que l'attitude de travail est de plus en plus de personnes pour souhaiter vivre à domicile.
Voilà, merci Isabelle. Oui, c'est ça en fait. On n'intervient pas auprès d'une personne en perte d'autonomie jeune comme on interviendrait auprès d'une personne en perte d'autonomie plus âgée. Voilà, il y a ça aussi.
Merci. Moi, je voulais vous parler des formations des aides-soignants. Nous, on habite dans un petit village. Les aides-soignants ne savent même pas ce que c'est qu'un looking. Oui. Ouais. Parce que nous, c'était juste la toilette pour Sophie. Voilà. Ils ne savaient pas du tout. Ils ne savaient pas ce que c'était que le looking. Et ça a été une catastrophe. Nous, pour Sophie, ça a été une catastrophe. Hein. Non, du tout. Les toilettes duraient 10 minutes. C'était une douche la semaine. Je pense que les pathologies
sont abordées aussi dans la formation, de manière générale. En disant cela, qu'est-ce que vous voulez vous dire, finalement?
Je veux dire qu'ils n'ont pas assez de formation.
D'accord.
Ils ne sont pas du tout... Voilà.
Plus de précision sur la pathologie.
Oui, voilà. Oui. C'était jamais les mêmes personnes. Les horaires, c'était de 7h30 à midi, donc ils pouvaient très bien venir à 7h30 comme venir à midi. Ce qui fait qu'on a fini, en fait, par moi, j'ai quitté mon travail. Et en fait, c'est moi qui ai pris le relais. Voilà.
Vous avez donné une super auxiliaire de vie, en
fait. Bah, j'espère. J'espère pour elle.
Merci.
Juste signaler pour reprendre ce que tout le monde a dit. Désolé, hein, je suis médecin, je ne pense pas que ce soit nécessaire dans une formation d'aidants ou de soignants de connaître toutes les pathologies. Les médecins, je peux vous promettre qu'il y en a plein qui ne savent pas ce que c'est qu'un loctin. Par contre, savoir ce que c'est qu'un grand handicapé qui a besoin d'une aide massive pour toilettes et habillage, ça oui, effectivement. Même quand on le sait, si on ne fait que le technique, on fait une toilette en 10 minutes. Donc ce n'est pas parce qu'on sait ce que c'est qu'un grand handicapé qu'on va faire la toilette comme il faut. Là, c'est un autre problème. C'est un peu la conscience professionnelle ou le temps qui vous reste. Et tout à l'heure, on parlait savoir-être, savoir-faire. Une des choses qui a été avancée, c'est le savoir gérer un soulève-malade. Mais ça, c'est du savoir-faire. Ce n'est pas du savoir-être. Donc on oscille sans arrêt entre le savoir-être et le savoir-faire. Je pense qu'il faut maîtriser le savoir-faire, mais que tout seul, c'est insuffisant. Mais ce n'est pas opposé. Quelqu'un qui est dans l'empathie, qui est très gentil, mais qui ne sait rien faire, je pense que ça ne va pas non plus.
Il y a d'autres questions ou...
C'est juste une petite question. J'avais été auxiliaire de vie, en fait, à un moment donné. Et il y a eu une période un peu où c'était un peu une période lune de miel, où au début, on était vraiment des prothèses de liberté. Et à un moment, ça s'est un peu retourné, sans que nous, on ait eu l'impression d'avoir vraiment changé. Et ça s'est retourné contre toute l'équipe. Et en fait, on a fini par comprendre qu'on était devenu presque envahissant notre présence 24 heures sur 24. Et je voulais savoir si c'est quelque chose dont vous avez eu des retours dans votre étude ou dans votre expérience. Et s'il y avait un moyen dans cette charte, justement, d'essayer de prévenir ça et voilà, de faire mieux, quoi.
Merci Isabelle. Est-ce que vous avez eu des retours sur cette omniprésence un petit peu, c'est ça, donc du personnel en fait, à domicile?
Je pense qu'elle est naturelle. Enfin, je parle en connaissance de cause, mais non, je pense que le problème, c'est le temps, c'est la durée. Les choses au début peuvent bien se passer, mais il doit y avoir peut-être une prise de conscience, de confiance et de côté, qui fait qu'à un moment, c'est tellement particulier, la barrière professionnelle, quand on touche à l'intime. Je pense sur tout ça. L'omniprésence, c'est là. On n'y peut rien, on le sait. Mais je crois que c'est plus sur la durée que les rapports peuvent se détériorer. Enfin, à mon avis.
Voilà, en fait, souvent, c'est ce qu'on dit, hein, faut savoir. Les auxiliaires de vie doivent savoir être là sans être vraiment là. Ce n'est pas toujours facile, mais...
Alors, je remercie Perrine d'avoir posé la question, car ça permet d'introduire les trois interventions qui vont suivre,